Fin janvier 1997.
Anna de Duvernard. Kumilach Rayati Yafati Ulchilach. Anna, en hébreu veut dire répondre, mais veut dire aussi s'adresser à. On peut employer le mot la anot, qui veut dire répondre lorsqu'on s'adresse à vous, pour s'adresser à quelqu'un, même si ça n'est pas une réponse. Lorsqu'on veut être affirmatif sur quelque chose, on emploie le langage Anna. Donc Anna Dodi Vamari. Mon ami Anna affirme Vamari. Voilà ce qu'il m'a dit. Kumilach. Voilà ce qu'il m'a dit. Kumilach. Lève-toi. Rayati. Ma compagne. Yafati. Ma belle. Ou le chilach et va-t'en. On est obligé de lire le deuxième verset avec pour comprendre. Kihine astav avar. Car voici, l'hiver est passé. Hageshem, la pluie. Chalaf, motamo est passé. Halach, la chalof, ça veut dire tourner. Halach lo, s'en est allé. Donc les chemins sont praticables. Hanitsanim, les bourgeons, Nirubaharetz, ont apparu sur la terre. Et, c'est le temps, Hazamir, du chant des oiseaux, Zemer, Higia est arrivé, Vekol Hator, et la voix Hator, c'est la tourterelle, Nishma Be'artzenu, se fait entendre dans notre pays. On continue. Athéna, le figuier. Chanta, a fleuri. Pagéa. Pagéa, c'est le début de la figue. Vagfanim, et les vignes. Smadar. Smadar, ce sont les jeunes pousses. Natnu Reach ont donné Reach leur odeur. Kumilach, va-t'en. Rayati, ma compagne. Yafati, ma belle. Ou le Chilach, et va-t'en. Tous nos commentaires sont d'accord pour dire qu'il s'agit ici de l'ordre qu'a donné Dieu à Moshe Rabbeinu de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Si on commence à lire le verset, on va voir Kumilach Rayati Yafati Ulchilach. Va-t'en. Et voilà qu'on va justifier le fait. Ki kar Hine Astavava, l'hiver est passé. Ageshem Khalaf Alachlo. Il n'y a plus de pluie. Anit Salim Niruba Aretz. C'est le printemps. Kolator Nishma Baratzilou. Comme si Dieu était venu et avait dit aux enfants d'Israël, maintenant que voici le printemps, il faut sortir. C'est le temps de la sortie. Il y a deux problèmes. D'abord, si c'est juste pour dire que c'est le printemps et que les chemins sont praticables, on parle de beaucoup de choses ici. Il y a le figuier, il y a la vigne, il y a les bourgeons, la pluie qui est passée. Pourquoi utiliser tellement de métaphores? Deuxième chose, nous avons toujours vu dans la Torah que c'est le contraire. Pourquoi? Parce que le texte de la Torah dit Shemor, garde, et Chodesh à Aviv, le mois du printemps, qui est expliqué par la Torah orale, que Pessah soit toujours au printemps, donc fait coïncider l'année lunaire avec l'année solaire, parce que si on va seulement selon l'année lunaire, un jour Pessah sera en été et un autre jour en hiver. Kivo yatzata mi mitzrayim, shemor et chodesh aviv, que Pessah soit bien pendant le printemps, parce que c'est au printemps que tu es sorti d'Égypte. Ici on voit le contraire. Kumilach rayati yafati ulchilach, tu vas t'en aller parce que c'est le printemps. Il faut savoir, est-ce que Pessah doit toujours être au printemps, parce que c'était au printemps, au moment de la sortie d'Égypte. Donc on va toujours garder Pessah au printemps. Ou alors, c'est le contraire. Il faut sortir parce que c'est le printemps. Les deux ne peuvent pas se justifier en même temps. On ne peut pas dire à quelqu'un, c'est le printemps, il faut sortir. Et après de dire, tu vas garder le printemps parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Mais non, puisqu'il fallait déjà sortir au printemps, c'est que la raison pour laquelle la sortie d'Égypte s'est passée au printemps est antérieure à la sortie même, puisqu'il fallait sortir au printemps. D'expliquer très simplement le texte en disant, c'est plus pratique de sortir au printemps que de sortir en hiver. Pour des gens qui, de toute façon, sont 40 ans dans le désert, c'est pas grave. Si on commence par le printemps, l'été, l'hiver. Donc c'est sûr que c'est pas ça le problème. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire du printemps? D'abord, on retrouve bizarrement les signes mêmes qui sont ceux qui sont expliqués dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, pour expliquer le fait que l'on ajoute, comme cette année, sept fois sur un cycle de 19 ans, de Var, c'est-à-dire que l'on double le mois d'Adar avant le mois de Nissan, qui est le mois de la fête de Pessah. Il est écrit dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, Al Shlosha Devarim Bet Din Me'abrim Et Hashana. Le Bet Din décide de l'année embolismique, donc d'ajouter un mois d'Adar à l'année, que l'année aura 13 mois et non 12 mois, on parle des mois lunaires, à partir de 3 simanim. Le premier siman, c'est le Rov Geshamim, c'est-à-dire si la majorité des pluies est passée. Comment est-ce qu'on le voit? On le voit sur Alaïlan, tu regardes les fruits des arbres, et à la Tvoua, tu regardes les céréales, est-ce que ils ont besoin de soleil maintenant, ou ils ont encore besoin de pluie? Où en est l'évolution de la nature? Est-ce qu'on commence à avoir le printemps ou non? La dernière chose, c'est à la Tkoufa. Alors on va expliquer en deux minutes ce que c'est que la Tkoufa, moi que vous savez tous, ce que c'est que la Tkoufa. Ne répondez pas tout en même temps. Bon. Alors, la Tkoufa, qu'est-ce que c'est? Le mot, c'est le mot Tkoufa. Tav, Kouf, Vav, Pei, E. La Tkoufa veut dire le point culminant. Mais le point culminant de quoi? Il y a quatre jours particuliers dans l'année solaire. Les deux solstices. Le solstice d'été et le solstice d'hiver. Et les deux jours de l'année où le jour et la nuit ont exactement le même nombre d'heures et qu'on appelle les équinoxes. Au solstice d'été, le jour est le plus long. Au solstice d'hiver, le jour est le plus long. Et le moins long. Pendant les équinoxes, le jour et la nuit sont équivalents. C'est donc 4 jours de l'année. Le 21 mars, le 21 juin, le 22 octobre et le 21 décembre. D'après la Torah, l'année solaire a 365 jours. D'après l'opinion qui a été admise, qui est l'opinion de Rav Ada, 365 jours, 5 heures et un peu plus de 55 minutes. C'est la durée de l'année solaire. La Tkoufa, on va appeler ça la saison, qui commence par un jour de solstice et qui se termine par un jour d'équinoxe, ou le contraire, sont les saisons, aura donc 91 jours et quelques heures. Le 91e jour s'appelle le jour de la Tkoufa, le changement de saison. D'accord? Multipliez 91 par 4, vous verrez que ça fait effectivement 91 plus quelques heures, ça fait effectivement 365 jours. Il y a une discussion dans la Gemara entre Shmuel et Rav Ada, mais la discussion, elle est de quelques minutes. Elle ne porte pas à conséquence pour nous. Nous, on a admis l'opinion Tkoufa Rav Ada. Ce que l'on calendrier, vous verrez, marqué la Tkoufa. Il y a des gens qui ont l'habitude, pendant l'instant de la Tkoufa, parce qu'on sait à quelle minute commence le jour où la saison change, on ne boit pas d'eau. Il s'agit d'un minhag. Ce minhag est très controversé dans le peuple juif, puisque Rav Gaon, qui a vécu il y a un peu plus de 1000 ans, a dit que ce minhag, c'était quelque chose qui avait des rapports avec des choses étrangères au peuple juif, que ça rappelait la sorcellerie. Le minhag vient du fait qu'il y a quelque chose de troublant que des événements qui ont toujours eu un rapport avec l'eau et le sang se sont passés à la Tkoufa. C'est à la Tkoufa de Tishri que Avraham Avinu a porté la main sur son fils et une goutte de sang est tombée du cou de Yitzhak Avinu. Et d'après le Midrash, c'est mélangé à l'eau du ruisseau qui coulait à côté. C'est à la Tkoufa de Sivan, non de Tammuz, que Moshe Rabbeinu a frappé sur le rocher. Et d'après le Midrash toujours, lorsqu'il a frappé le rocher la première fois, c'est du sang qui est sorti du rocher, qui s'est mêlé à l'eau qui a coulé après. Et c'est à la Tkoufa de Nissan que l'eau du Nil s'est changée en sang. Et c'est pour ça qu'il y a un petit problème de minhag. C'est à la Tkoufa d'hiver de Tevet qu'a eu lieu le meurtre. C'est controversé s'il a vraiment eu lieu ou pas, de la fille de Yiftar. Vous savez sûrement tous qui est Yiftar. Yiftar de Gilad, c'était un des juges. Si vous lisez le livre de Shoftim, vous pourrez retrouver l'histoire. De là vient un minhag, une habitude que certaines gens observent, de ne pas boire de l'eau pendant le moment de la Tkoufa elle-même. C'est pour ça que vous avez dans les calendriers la Tkoufa telle heure. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas tellement ça, puisque maintenant on sait ce que c'est la Tkoufa, c'est de savoir que la Torah demande de faire coïncider le calendrier lunaire avec le calendrier solaire. Le calendrier lunaire ne peut coïncider avec le calendrier solaire que si l'on rajoute 7 fois pendant 19 ans, un mois en plus qui est le mois de Hadar avant le mois de Nissan. Cette possibilité-là, c'est ce que Dieu a montré à Moshe Rabbeinu, la première mitzvah de la Torah, à Chodesh, à Zé, Lachem, Rosh Chodashim. Vous allez commencer à compter les mois, et il lui a donné ce qu'on appelle le sod du Molad, la durée de la révolution de la Lune. Seulement, dans la Torah, il y a marqué Chodesh Aviv, Tekufa Tashana. C'est la première Tekufa de l'année, le printemps. C'est de là qu'on apprend que le calendrier solaire et le calendrier lunaire doivent coïncider, puisqu'il n'existe pas de Tekufot de la Lune, il ne peut exister que les Tekufot du Soleil, puisque vous savez que la Tekufa du Soleil correspond au moment où le Soleil pénètre sous tel et tel signe du zodiaque, et les quatre Tekufot, c'est le moment de la pénétration du Soleil dans tel et tel signe. Donc, le mot Tekufa ne peut s'appliquer qu'à l'année solaire et non pas à l'année lunaire. Donc on doit faire coïncider l'année solaire et l'année lunaire. Les Chachami nous ont donné des klalim, nous ont donné des principes qui font qu'on sait que la Tekufa, c'est ça le troisième signe, si il y a eu assez de pluie et qu'on voit la Tevoua, on voit Perot Haïlam, et la Tekufa qui est le troisième signe, il faut toujours que la Tekufa de Nissan, c'est-à-dire l'équinoxe de printemps, soit dans la première quinzaine du mois de Nissan, avant Pessah, et dans la première quinzaine du mois de Nissan. C'est ce qu'on apprend, l'Itkufat Hashana. L'année commençant en Nissan, l'Itkufat Hashana, de là la Gemara apprend, dans le traité de Sanhedrin, à la page 13, que toujours la Tekufa de Nissan doit tomber avant Pessah et pendant les 15 premiers jours de Nissan. C'est comme ça qu'a été construit le calendrier juif. On a déjà dit que le calendrier juif, c'est plus que simplement un calendrier, puisque les Chachamim, surtout depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, n'ont jamais été en mesure de vérifier le calendrier. Ils l'ont appliqué à la lettre, tel que Moshe Rabbeinu l'avait dévoilé, tel qu'il est écrit dans la Torah, Chodesh Azé Lachem Rosh Chodashim. Et là-dessus, la Gemara dit, Moshe Litkache Bemalan Dalvana, il ne savait pas ce que c'était. Et Dieu a dû lui montrer qu'est-ce que c'était que le Molad Alavana. À partir de quand considère-t-on que la Lune est apparue, que l'évolution était entière? Parce que vous savez que le point zéro n'existant pas, on est toujours obligé de donner ce qu'on appelle un chiour pour dire que le point 1 existe. Ce qui nous ramène toujours au problème du temps, qui est une mesure, mais qui est une mesure qui est obligée d'être quelque chose qui n'est pas complet. Parce que vous savez bien que minuit n'existe pas. Je ne peux pas dire à quelqu'un, tu viens à minuit. Mais, on a l'habitude de le dire, c'est ou avant minuit ou après minuit. La même chose. Prends quelque chose de très simple. On vous dit, voilà, la Amida le matin, le mieux c'est de la faire au moment de Netz-Arama, où le soleil se lève. Personne n'est capable de vous dire ce que ça veut dire que le lever du soleil. On sait ce que c'est avant le lever du soleil, et après le lever du soleil, on peut le calculer astronomiquement. Mais vous dire qu'est-ce que c'est que le lever du soleil, personne ne sait. Et pourtant, vous verrez dans vos journaux, il y a marqué « lever du soleil, telle et telle heure ». Qu'est-ce que ça veut dire « lever du soleil » C'est-à-dire que c'est perceptible. À quel œil? Vous savez que si je me mets à 100 mètres, je vois, à 10 km, je vois autrement. Il y a des choses que je ne peux pas percevoir avec mon œil, mais que l'instrument astronomique va percevoir. Donc, tout ça, c'est très théorique et c'est calculé mathématiquement. La Torah l'a calculé mathématiquement. Et nous n'avons pu le vérifier que ces derniers temps. Et ce calendrier, c'est notre calendrier, il colle. On voit que le fait de faire correspondre l'année lunaire et l'année solaire est la seule façon pour laquelle les fêtes se retrouveront toujours aux mêmes dates, et que dans un cycle qui est celui de 19 ans, on retrouve exactement la correspondance qui était la même de celle d'il y a 19 ans. Les trois signes qui sont marqués ici. Qu'est-ce que c'est le printemps pour nous? C'est la Tekufa. Seulement la Tekufa, c'est solaire. On a besoin aussi que ça corresponde avec le mois de Nissan et ses lunaires. Donc maintenant, on va observer le verset et on va voir que les trois signes, qui n'est à Stavavar, à Geshem Khalaf Alachlo, lorsqu'on dit l'hiver est passé, les pluies ont passé, c'est le premier signe. C'est le deuxième signe. Astav, ça veut dire l'hiver est passé, il y a une nouvelle tkoufa. On retrouve les signes exacts qui sont ceux avec lesquels on détermine la fête de Pessah. Donc la question est encore plus difficile maintenant. C'est comme si Dieu a fait coïncider la fête, la sortie d'Égypte, avec la fête de Pessah. Ah ouais, c'est d'expliquer. Vous savez qu'il y a un problème qui n'est pas facile à résoudre, qui est celui-ci. Les 10 commandements, tout le monde sait ce que c'est. Les 7 lois noachies, tout le monde sait ce que c'est. Les 613 mitzvot, c'est un peu plus difficile, un peu plus long, un peu plus fastidieux. Mais tout le monde comprend que ce qui est marqué dans les 10 commandements, ça révèle le profond ou la normalité de la nature humaine. L'otir tzar, tu ne tueras point. On est adapté à ce commandement. Il y a des exceptions, c'est vrai. Mais dans la règle générale, on est adapté à ça, tout le monde le conçoit. Le tignov, tu vois. Shabbat, c'est déjà plus fin. Le respect des parents, c'est plus commun. Ne pas convoiter. Le problème, il est celui-ci. Est-ce que la Torah nous dit, tu ne tueras point, parce que c'est ta nature, ou c'est notre nature, parce que la Torah a dit, tu ne tueras point. Historiquement, c'est impossible à démêler. Pourquoi? Ce qu'on va vous dire, c'est l'éducation judéo-chrétienne qui fait que on a certaines tendances, certaines habitudes, certaines choses dont on pense que c'est la morale universelle, mais sans le pied tout à fait autrement. C'est l'histoire. On pense de ce phénomène-là. Est-ce que la Torah est venue légiférer sur la nature humaine? On ne va pas me demander des choses dans lesquelles je ne suis pas capable. On ne va pas me demander d'aller sur la Lune. On va me demander les choses qui révèlent ma vraie nature. Ce qui marche chez l'homme, ça va faire marcher le monde. Ou alors c'est le contraire. Moi, je suis adapté à la Torah. La réponse, elle est claire, nette et précise. C'est moi qui ai adapté la Torah, parce que la Torah est première par rapport à la création de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Zohar, « Istakel bo'oraita ubara alma » Dieu à regarder la Torah en créant le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, regarder la Torah en créant le monde? Ça veut nous dire que le schéma sur lequel la nature a été fondée, c'est le schéma de la Torah. Lorsque Dieu a créé le monde, il l'a adapté à un système qui préexistait et qui était celui qui allait gérer ce monde. C'est ce système de la Torah. On va aller un peu plus loin, on va dire. On voit que la Torah, c'est la transition, le contact possible entre le divin et le commun. Dieu peut s'adresser à l'homme par l'intermédiaire de la Torah. On a fixé que c'est ça la vérité. C'est ça qui va gérer les choses. L'homme peut accéder au divin par rapport à son observance et sa compréhension de ce que la Torah lui demande. Donc à la question de savoir qu'est-ce qui est premier, l'homme ou la Torah, l'homme est premier et la Torah est venue en tant que loi pour gérer l'humanité, ou le contraire, la Torah est première et l'homme a été construit selon une vérité qui doit s'exprimer dans la Torah, selon une gestion qui doit être celle que je dois retrouver dans la Torah, dans les mitzvot, il est certain que c'est la deuxième solution. Istakel Boraita ou Baralma veut dire on a créé le système et on a créé le monde adapté à ce système. Si vous me demandez comment est-ce qu'on le voit dans la réalité, en tout premier lieu, on le voit dans la réalité sur le calendrier. La Torah me demande d'observer un calendrier que je n'ai pas la mesure de vérifier. Ce calendrier va gérer les fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot, Yom Kippour, Hoshana, va gérer la vie juive. C'est comme ça que le monde marche. Alors j'ai la possibilité de dire, ah, le bon Dieu a créé d'abord le monde, et ensuite il a adapté, et il a créé, il a sorti des lois de ce qui avait été créé. Quand on parle de Dieu, c'est pas comme si on parlait de Napoléon ou d'Amourabi. C'est sûr que chez le bon Dieu, c'est en même temps. Si c'est en même temps, on a dû se demander pourquoi selon tel rythme et pas tel rythme, selon telle évolution et pas telle évolution. La réponse est là toute faite, parce que la Torah a été créée d'abord et c'est selon le modèle de la Torah. Bon, c'est-à-dire que nous procédons tout à fait autrement. Nous venons, nous disons, voilà, l'année lunaire, elle a tant et tant de jours, tant et tant d'heures, tant et tant de minutes. L'année solaire, tant et tant de jours, tant et tant de nuits. D'où est-ce que tu le sais? De la Torah. D'où la Torah le sait? La Torah n'a pas le savoir. C'est la Torah qui a permis que ça se fasse. Donc par définition, c'est comme ça. C'est pour ça qu'avec une foi parfaite, le judaïsme s'est toujours permis de dire, adapter les calendriers, essayer de trouver les mesures, ça ne sert à rien, parce que voilà la vérité. Où est-ce que c'est marqué? Dans la Torah. Puisque marqué dans la Torah, tu es obligé de le retrouver dans la nature. On a déjà dit que cela fait à peine 20 ans que on observe et on trouve que le molad moyen, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre l'apparition de la lune et sa disparition à l'œil, et qu'il écrit comme pour nous le molad, la longueur du mois, on trouve que en temps astronomique c'est la moyenne des 20 derniers moladot. C'est tout ce qu'on peut dire, parce qu'avant on ne pouvait pas vérifier. Nous n'avons pas besoin de la vérification pour savoir que c'est juste, parce qu'on procède du contraire. On vient, on dit, puisque c'est la Chamo chez Mitzinaï, c'est donc que c'est comme ça. Et on va au point que Hillel, l'ancien, a calculé un calendrier pour 6000 ans, et il a dit, vous verrez, ce sera toujours comme ça. Et c'est effectivement comme ça. Ça veut dire que, il y a 1600 ans, un vieux juif en Eretz Israël pouvait vous dire que en 1997, Pessah tomberait le 28 mars. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. Tu peux vérifier? Aucune idée. Impossible. Je ne sais pas mesurer les minutes, à peine les heures. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une heure? La deuxième partie du jour. Ok. À partir de ce moment-là, si on définit que ce qui est premier, c'est la Torah en tant que principe et en tant que règle. Et la création n'est que la création dont les lois vont obéir à ce qui a été défini d'abord dans la Torah. Il est tout à fait normal que je me pose une question. La fête de Pessah a-t-elle était décidé en tant que commémoration de la sortie de l'Égypte, qui est un fait dû au hasard? Quand on fête le 14 juillet, pourquoi le 14 juillet? Parce que ils ont eu la bonne idée de prendre la Bastille le 14 juillet. Imaginons que ce soit le 13, ça n'aurait pas marché. C'est le hasard qui fixe la commémoration. Pourquoi? Parce que l'événement dépend du hasard. À partir de ce moment-là, on commémore un événement. Ce qui est premier, c'est l'événement. Chez nous, c'est le contraire. Et on va essayer de savoir comment. Je vois qu'on me dit, voilà, la sortie d'Égypte, Dieu est apparu au peuple juif, il a dit, c'est le printemps, il faut sortir. Pourquoi? Parce que Pessah doit être au printemps. Ok. Ça veut donc dire que ce que nous, nous fêtons à Pessah, c'est pas la sortie d'Égypte, c'est le printemps. Il faut savoir ce qu'on veut. Pire que ça, il est écrit dans le Midrash que Avraham Avinu, à Pessah, il mangeait des matzot. Pourtant, il n'y avait pas de sortie d'Égypte. Il n'avait rien à commémorer. Le fait que les Avot, Avraham, Isaac et Yaakov, aient pu observer toute la Torah, montre bien qu'il ne peut y avoir de commémoration dans la Torah. On va dire pire que ça encore. C'est l'évolution de l'histoire et l'évolution que nous observons, ou les lois que nous observons dans la nature, qui vont selon le modèle de la Torah et non le contraire. Donc la fête de Pessah a lieu parce qu'elle est dictée dans la Torah. Et la sortie d'Égypte a lieu pour que l'on puisse fêter la fête de Pessah en tant que commémoration de la sortie d'Égypte. Mais ce qui est intéressant, c'est Pessah. La commémoration, c'est la justification dans l'histoire de la fête de Pessah. Et non pas le contraire. S'il n'y avait pas eu de sortie d'Égypte, on n'aurait pas pu fêter Pessah. C'est pour ça que la sortie d'Égypte a eu lieu. Alors maintenant, on peut comprendre le verset. Dieu est apparu à Moshe Rabbeinu et il a dit, il faut faire sortir les enfants d'Égypte. Comment est-ce que le peuple d'Israël le voit? Kine Astaravar, Ageshem Khalafarlo, c'est le moment où le Aviv, on va voir qu'est-ce que c'est que ce printemps, quelle est l'importance de cette histoire-là. Et Azamir Igia, Kolator Ishmaratse, on va expliquer tous les termes. Ça, ça fait que c'est le moment de sortir. Donc la fête de Pessah va pouvoir avoir lieu avec sa répercussion dans l'histoire, qui est la sortie d'Égypte. Donc lorsque moi je fête la fête de Pessah, à la différence du 14 juillet, c'est pas que si on avait pris la Bastille le 13 juillet, j'aurais fêté le 13 juillet. Et il n'y aurait jamais eu le 14 juillet. C'est qu'il était nécessaire historiquement que la fête de Pessah tombe le 15 du mois de Nissan, parce que le 15 du mois de Nissan a ceci de particulier, qui doit être fêté en tant que fête de Pessah. Et il était donc inéluctable que les enfants d'Israël sortent d'Égypte le 15 Nissan. Ça ne pouvait pas se passer autrement. C'était obligatoire. C'est en cela que l'histoire obéit à la volonté divine. Istakel Boraita Obar Alma, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que, à partir du moment où Dieu a créé d'abord la règle et ensuite l'histoire, je me conforme à la règle. L'histoire n'est que la justification de cette règle. On va aller pire que ça. Toute loi de la nature n'est que la justification d'une volonté divine que je dois pouvoir retrouver dans la Torah et dont je dois trouver le pourquoi. La science va me donner le comment et moi je dois trouver le pourquoi. Non seulement je dois trouver le pourquoi, mais je dois pouvoir le reconnaître. On va donner un exemple. Il existait un rabbin célèbre qui s'appelait Rabbi Sar Zalman Meltzer. Il a écrit un livre qui s'appelle le Even HaEzel, très connu. Il est mort en 1954. Vers la fin de sa vie, quelqu'un est venu lui demander, comment est-ce que l'on peut percevoir la réalité de la Torah dans le monde physique? Je veux dire, ça c'est très simple. Bon, si c'est simple. Lui, par exemple, on reconnaît très bien un ustensile qu'on a trempé au mikvé d'un ustensile qu'on n'a pas trempé au mikvé. Il dit, comment vous faites? Il dit, quoi, tu sais pas comment on fait? C'est très simple. Chaque juif, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Shiviti Hashem le Negdi Tamid. C'est comme ça que commence le Shulchan Aruch. Shiviti, j'ai placé, j'ai mis en exergue Hashem, le nom de Dieu, le Negdi en face de moi, Tamid, toujours. Comment on fait pour ne pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire? Un juif doit avoir devant lui, à chaque instant, les lettres Yud, He, Vav, He. Vous pouvez vous les mettre en cursive, vous pouvez les mettre en cunéiforme, ce que vous voulez. C'est comme ça qu'on se croit. Shiviti Hashem, le Negdi Tamid, ça veut dire que le juif doit percevoir les choses à travers ce nom de Hashem, Yud, He, Vav, He, qui veut dire être. On le conjugue au passé, au présent et au futur. Yud, le Vav et le He. Très bien. Ben, il dit, c'est très simple. Tu prends le Yud et Vav que tu as toujours devant toi et tu le mets sur l'ustensile, dans ta tête. S'il reste, eh ben, c'est que ça a été la tira. S'il s'en va, il n'arrive pas à coller, eh ben, c'est que ça. Personnellement, j'ai souvent essayé, ça n'a jamais marché. Il faut croire qu'il faut une certaine pureté pour pouvoir voir certaines choses et que ceux qui ne l'ont pas n'ont pas cette perception. Comment est-ce qu'on va savoir s'il a raison ou tort? Parce que c'est bien de le dire, puisque l'on n'arrive pas à le faire. Ah ben là, tu sais pas comment ça marche? Eh ben montre-moi. Il a les deux pères, il a dit celui-là, il n'a pas été là-dessus. Là. C'était vrai. Pire que ça, tout le monde a parlé du célèbre Rabbi Yeshua Lebdiskin. Rabbi Yeshua Lebdiskin, il était le Rav Bedin de Yerushalayim à la fin du siècle dernier. On racontait, on disait de lui que il savait le nombre des feuilles qu'il y avait dans un arbre. Un jour, un élève a eu le culot, il lui a demandé. Il lui a dit, Rabbi, comment est-ce que je vais pouvoir vérifier si vous avez raison? Il lui a dit, quels arbres s'agit-il? Il lui a montré un arbre où il y en avait. Il a dit, bon, j'ai vu, c'est bon. Il a dit, comment je vais vérifier? Il a dit, bah, c'est très simple, je vais me retourner. Tu vas enlever un certain nombre de feuilles, je te dirai combien il en reste. Le Rav Dessler, qui était le Majgar de l'Aïcha de Ponovitch, il disait que son père, il arrive à voir sur la figure de quelqu'un si il faisait attention aux lois de la cachoute. Et que lui ne peut plus le voir. Mais la pureté familiale, lui, le sait. Ça veut dire que le pourquoi et le comment, ce sont deux choses de nature différente. Mais le pourquoi doit être assimilé à une volonté dont on peut nous-mêmes retrouver la trace et qui est notre seul intermédiaire avec ce qu'on appelle être le divin, le Ein Sof. Parce qu'on ne va pas faire un discours sur l'infini. Mais il faut savoir que nous n'avons pas, nous, de possibilité de raisonner avec des notions qui sont celles de l'infini. À partir de ce moment-là, on est obligé, nous, d'avoir une grille qui nous permette de décoder et de comprendre à notre échelle, selon des lois qui sont celles que l'on peut retrouver et repérer, qui sont celles avec lesquelles nous avons été créés. Et c'est là qu'entre la Torah et que se pose en principe la Torah. Il est donc évident qu'on va donner un exemple. Je donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on vient, on dit, ah, on n'est plus à l'époque du Talmud, où il y avait Beit Shammai et Beit Hillel. On croit que Beit Shammai, c'est un grand libéral, un réformateur. C'est vrai, il n'a pas osé certaines choses. C'est pas sa femme qui était rabbin à sa place. Mais c'était un grand libéral, un grand. Il y a des lois de la Torah qui sont astreignantes, qui sont difficiles à supporter. Est-ce que le rabbin aujourd'hui ne pourrait pas arranger un petit peu ces choses-là? Parce que nous avons changé. Aujourd'hui, on a qui renforce ce cheval-là. Ils sont un tout petit peu en retard parce que l'histoire des droits de la femme et ces trucs-là, on en revient. Mais enfin, on peut renforcer ce cheval-là. Pourquoi est-ce que il est impossible de considérer même la question? Parce que si la Torah se pose en tant que Istakel Batorah Ubara Alma, d'abord la Torah a été créée avec les principes, et ensuite le monde a apparu selon ces principes-là, qu'est-ce qu'on peut changer? Ça ne veut plus rien dire. Parce que chaque chose est exactement adaptée à la loi. Si c'était Napoléon, on peut dire tu t'es trompé. Tu as écrit un code. Maintenant, la société a changé, il faut réformer le code. Mais c'est le contraire. Donc si on vous dit il faut libéraliser ou il faut changer la loi de la Torah, pour nous ça équivaut à dire il faut changer l'homme. Les rabbins ne peuvent pas trouver une manière que nos enfants aient 6 doigts, c'est plus pratique. Pourquoi on ne vient pas nous le demander ça? Parce qu'incidemment, on dissocie les deux choses et on dit voilà, la nature, elle est telle qu'elle est, peut-être évolutive, peut-être originelle, on n'en sait rien. Il y a une loi qui a été dictée aux Hébreux, bon, cette loi on peut la changer, on peut l'adapter. Mais nous, notre rapport avec la Torah, ce n'est pas celui-là. Le rapport, il est qu'à travers la Torah, nous découvrons qui nous sommes. Lorsqu'il y a marqué l'Oti Otsar, c'est que moi, je dois découvrir comment, au fond de moi, il est une idée et une tendance qui est la plus naturelle et la plus simple de ne pas tuer. Tant que je n'ai pas découvert ça, je ne suis pas encore l'homme de la Torah. Je suis un homme brut. Et on m'a révélé la Torah pour savoir qui je suis vraiment. Comment dois-je devenir pour être? C'est ça la grande différence. Alors si je viens, je commence à rayer les trucs, alors on peut aller nulle part. Ça ne commence même pas. Ici, on en a la preuve. Il y a quelque chose de spécial dans la fête de Pessah pour qu'elle doive être le 15 du mois de Nissan. Et ce 15 du mois de Nissan doit toujours être immédiatement après la Tkoufa, après le changement de saison. Il y a quelque chose dans la nature qui demande ça. C'est la raison pour laquelle la sortie d'Égypte a lieu à ce moment-là. L'histoire justifie la Torah, et la Torah ne se justifie jamais par l'histoire. Lorsque nous l'expliquons le soir du Seder, et nous disons pourquoi nous mangeons la matzah, alors on explique le fait historique. Mais pas pour dire, tu sais, c'est le 14 juillet, et on a pris la Bastille, en fait, la prise de la Bastille le 14 juillet. Pour montrer que, historiquement, ça a collé avec la vérité qui est celle de la Torah. Et on va donner un exemple. Matzazu shanu ochlim al shumma. Pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah? Al shem shelo ispik betzekam shelavotenu lachmitz. Parce que la pâte qu'ont sorti nos pères d'Égypte n'a pas eu le temps de lever. Ad shenigla aleihem melech malchei hamelachim akadosh baruch hu. Au moment où Dieu leur est apparu, C'est la raison pour laquelle nous aussi nous mangeons de la matzah. Tout celui qui a une fois regardé le texte de la Torah voit que c'est faux. Quelle est la preuve? C'est que le sacrifice de Pessah que nos ancêtres ont pratiqué en prenant un agneau et qui a été célébré la veille de la sortie d'Égypte, le 14 du mois de Nissan, il est écrit dans la Torah Al Matzot ou Merorim Yochlou. Il fallait le manger avec des matzot. Pourtant, il n'y avait pas encore la sortie. Il n'y avait pas encore le fait qu'on ait fait de la pâte et que ça n'ait pas marché. Déjà, il fallait faire une matzot. Pire que ça, dans la paracha de Vaud, on voit que l'on parle de Pessah Dorot, c'est-à-dire le Pessah pour les générations. On dit ne sera pas le même que le Pessah Mitzrayim qui a duré seulement un jour, mais il durera 8 jours. Et pendant ce Pessah-là, on n'a pas le droit de manger du Hametz, mais on ne doit manger que de la matzah. Et pourtant, la Torah ne raconte pas encore la sortie d'Égypte. C'est avant. C'est au moment où a été donné l'ordre du Korban Pessah, du sacrifice de Pessah en Égypte, a été donné en même temps l'ordre du sacrifice de Pessah pendant toute l'histoire du peuple juif. Donc ça n'a aucun rapport avec la sortie d'Égypte. Alors pourquoi nous, dans la Haggadah, on dit ben, tu sais pourquoi on mange de la matzah? Parce que l'Oispig le Tétan. C'est pas la raison. C'est la preuve. Lorsqu'on dit Matzazu Shanochim al Shuma, pourquoi est-ce qu'on la mange? Alors on explique à son fils pourquoi on la mange. Parce que l'ordre de la Torah a été justifié par l'histoire. C'est quoi? C'est que l'histoire a été construite de telle façon que pendant les jours de Pessah, qui n'ont rien à voir avec le Pessah d'Égypte qui était le 14 du mois Nissan, alors que notre Pessah est le 15 du mois de Nissan, c'est-à-dire un jour après le jour de la délivrance, et que, pour une raison X, les Bnei Israël ont essayé de faire du Hametz, ils ne sont pas arrivés. Ils ont marché, ils ont couru. Pendant 7 jours, ils ont été obligés de manger la matzah. Pourquoi est-ce qu'on mange la matzah? En disant, nous mangeons la matzah, la réponse évidente qu'on pourrait dire, ben, c'est marqué dans la Torah. Pourquoi? Mais si on demande pourquoi, c'est pour te dire que tu vois bien que ça s'est révélé dans l'histoire. Alors si ça s'est révélé dans l'histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que cette fête de Pessah, elle doit exister. La preuve, c'est qu'au temps où nos ancêtres sont sortis d'Égypte et la Torah n'existait pas encore, la fête de Pessah s'est passée. Et ils ont mangé de la matzah, malgré eux, sans l'ordre de manger de la matzah, puisque la Torah n'est pas encore exécutée. Mais on va demander alors, finalement, pourquoi est-ce qu'on mange de la matzah? Finalement, pourquoi cette fête de Pessah? La réponse, elle est ici. Parce que c'est le printemps. Alors c'est le printemps. Qu'est-ce que c'est que le printemps pour le goy? C'est la libération. On n'est plus soumis aux contraintes du temps. Aujourd'hui, on traduit même ça. On est même plus soumis aux contraintes vestimentaires du temps. On n'est même plus construit, on n'est même plus obligé par les mœurs difficiles de l'hiver. C'est comme ça qu'on traduit le printemps chez le goy. Même sans verser, dans la vulgarité absolue du français qui entend le chant des oiseaux et qui cligne de l'œil d'une façon morbide, on peut quand même se rendre compte qu'il y a quelque chose. On n'est plus des paysans. Mais on a quand même un rapport avec le temps. Quel est ce rapport avec le temps? C'est qu'on ne peut pas emprisonner l'homme tout le temps. On est obligé de le libérer. Tout le problème est de savoir qu'est-ce que ça veut dire libérer. Il y a des cycles qui maintiennent l'homme dans sa condition. Imaginez la Californie. Pour nous, c'est presque Sodome et Gomorre. Imaginez que le monde entier soit la Californie. Il faut croire que ça fait longtemps qu'on n'existerait plus. Parce qu'il y a une nécessité de se restreindre dans tout. Mais on ne peut pas se restreindre toujours. On est obligé d'obéir à des cycles. Et un peu de liberté ne fait pas de mal. Les Bnei Israël sont descendus en Égypte parce que on l'avait annoncé à Abraham et parce que le peuple juif avait besoin de ça. On était obligé de les libérer parce que la contrainte est bonne, si elle aboutit à la liberté. Il faut savoir quelle est la liberté. Moshe Rabbeinu est venu chez Pharaon et il lui a dit: Dieu veut faire sortir le peuple juif. Pourquoi? Pour que Yahavduni à la harazé. Pour qu'ils puissent servir Dieu à la harazé, c'est le mont Sinaï, c'est-à-dire après avoir eu la révélation. La liberté du peuple juif passe par des choix et passe par des mitzvot, passe par des options. C'est ce que nous appelons la liberté. Pour pouvoir se mesurer à ça, il faut que la nature elle-même me rappelle qu'il existe des contraintes et qu'il existe une période où il y a moins de contraintes. Et la liberté qui est celle du peuple juif doit coïncider avec ce qui se passe dans la nature et qui est ce qu'on appelle le aviv. C'est la liberté. Mais la liberté, elle est double. C'est que le stav c'est l'hiver, qui est un stav avar. Stav c'est l'inverse du mauvais set. Mais ça veut dire cycle. L'hiver c'est un cycle qu'il faut passer, la nature a besoin de se reposer. Elle a besoin de se congeler, elle ne peut pas produire tout le temps. Elle aussi elle est obligée de vivre un cycle, où il y a un moment elle n'est pas libre de produire, de procréer. Et l'homme aussi a besoin de vivre un certain cycle qui fait qu'il y a des moments où la liberté va l'interpeller. C'est comme ça que Dieu a fixé que sera la nature de l'homme. Ce sont donc les besoins de l'homme, et c'est comme ça que la Torah a été, on va dire, inventée pour pouvoir gérer cette nature-là. À la fin de l'hiver, lorsqu'on a subi les contraintes, il y a toujours une liberté. Lorsqu'on est obligé d'assumer des difficultés, il y a toujours une liberté. Est-ce que cette liberté, ça veut dire qu'on casse tout et on ne respecte rien? Ou la liberté, c'est la liberté de choisir sans contrainte? Ça, c'est toute la différence entre l'esprit de la Torah et l'autre esprit, qui est l'esprit de liberté, qui veut dire chasser toute contrainte ou chasser toute possibilité de se mesurer à quoi que ce soit. Les fêtes, elles sont fixées, elles sont là pour nous apporter quelque chose. La fête de Pessah, elle a déjà été célébrée par Abraham Avinu, parce qu'au moment où la nature se réveille, l'homme doit aussi se réveiller. Et à ce moment-là, il doit se mesurer à une contrainte. Vous savez que le mot Hametz, c'est l'anagramme du mot Metzar. Metzar, ça veut dire le front. C'est que la liberté a comme limite l'orgueil, a comme limite le fait que l'homme n'est pas seul, qu'il n'est pas permis de tout faire, et que finalement il n'est même pas premier. Il y a eu le bon Dieu avant lui. Au moment où l'homme se libère, il est obligé de comprendre que cette liberté a des limites. C'est la raison pour laquelle la fête de Pessah, c'est celle qui a libéré les gens qui étaient esclaves et qui lui ont demandé de passer du stade d'esclave à celui de serviteur. Mais c'est le même mot en hébreu. Avadim veut dire les esclaves. Yavduni veut dire me servir. Tu es toujours évêque de quelque chose. Quelle en est la raison? Parce que là, tu aurais été avant toi. Tu obéis un projet. Tu n'es pas premier. Tu n'es pas venu tout seul. Il y a quelqu'un qui a pensé à toi avant. Il a un projet pour toi. Tu es toujours un évêque de quelque chose. Vous savez que il écrit dans le Mirtam Eliyahu que le temps est une création pour que nos sens puissent mesurer la puissance de chaque instant. Vous savez que nous, nous percevons les choses par les sens, donc nous accédons à la liberté par les sens. Sans les sens, on serait entièrement enfermé en nous-mêmes. Seulement, on est enfermé aussi par les sens. Le fait d'être enfermé par les sens ne nous permet pas de tout voir en même temps, de tout comprendre en même temps, de tout sentir en même temps. C'est pour ça qu'on a besoin du temps. S'il n'y avait que la neshama de l'homme, il n'y avait pas son corps, on aurait pu mettre tout en même temps. On aurait pu Shavuot, Sukkot, Megillah, ta pour tout ensemble. Pourquoi? Ce que tu dois comprendre de ces choses-là, tu peux tous les comprendre en même temps. Si on a un corps, on ne perçoit les choses qu'avec un temps déterminé. Et c'est pour ça qu'on a inventé cette mesure. Et c'est pour ça qu'il y a des fêtes, il y a des événements que l'on célèbre l'un après l'autre selon un temps et une mesure déterminée. C'est la seule raison. Donc moi je dois me demander à chaque fête, à chaque événement de la vie juive, chaque Shabbat, chaque fois que je fais quelque chose, à quoi cela correspond au fond? Si je me dis, voilà, à la fête de Pessah, c'est parce qu'on a été libre, on est libre. C'est que j'ai rien compris. Parce que je suis obligé de me dire, si la sortie d'Égypte a eu lieu et qu'elle a donné lieu à la fête de Pessah, c'est pour que je puisse observer la fête de Pessah. Et que ça se justifie naturellement. Ça se justifie dans l'histoire du peuple juif. Et par là, je suis à même demander quel est le sens de cette fête. Maintenant, on va comprendre un petit peu mieux ce qui est marqué ici. Kine Astavava, il y a eu le Rav Kshamim, c'est-à-dire, maintenant le mois de Nissan va arriver. Ageshem Khalafalachlo, Anitsanim Irubaharet, et Azamirigia. On va essayer d'expliquer chaque terme en soi. On commence à reprendre le verset. Ana Dodi Ramari, Kumilach Rayati Yafati Ulechilach. Attention. Il y a deux termes. Kumi, c'est lève-toi. La Kum. Le Chi, c'est vas-y, va-t'en. L'air. Quelle est la différence entre ces deux mots? D'abord, on peut dire à quelqu'un va-t'en, c'est obligé de donner des conseils. Il comprend pour s'en aller, obligé de se lever. C'est difficile de s'en aller sur sa chaise. Qu'est-ce que le verset vient me dire? Kumila ou le khila? Le Midrash demande pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, Dieu lui est apparu dans le buisson et qui a marqué que Moshe a vu le buisson. Il s'est approché du buisson. Et à ce moment-là, Dieu l'a appelé. Il a vu le buisson. Qu'est-ce qu'il a besoin de s'approcher? Dieu pouvait l'appeler de loin. Si le bon Dieu peut parler, il peut parler à voix haute. Le Midrash dit, si Moshe ne s'était pas approché du buisson, Dieu lui aurait jamais parlé. Il y a marqué Vayasa. Il a dévié de son chemin. celui qui est capable de dévier de son chemin, alors Dieu peut lui parler. Celui qui a besoin qu'on le dévie de son chemin, Dieu ne peut pas lui parler à celui-là. Un homme doit d'abord être disponible, et après, il peut comprendre certaines choses. Mais on n'agresse pas la personne pour qu'il puisse comprendre. Même lorsqu'on lui tape sur la tête, il lui faut une certaine disponibilité pour comprendre qu'on lui veut quelque chose. Et c'est seulement lorsque il est d'accord de sortir de son système qu'il peut comprendre. Il y a un rabbi qui s'appelait Rabbi Chaim de Tzanz. Il donnait l'exemple suivant. Il était en train de marcher dans la rue. Tout d'un coup, tu reçois une immense pelle dans le dos. Avant de se retourner, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de prendre son poing, de se retourner, et de le mettre au moins dans la figure de celui qui vous l'a donné dans le dos. C'est la première réaction. Mais si on est assez intelligent, et que se retourne d'abord, on verra que c'est un copain. Et après, on ne lui demandera pas pourquoi vous a tapé si fort. Et finalement, pourquoi vous a tapé si fort, le copain? Ou pour vous arrêter parce que vous allez vite? Ou parce qu'il a envie de vous faire une surprise? Essayez de savoir pourquoi, mais c'est tout le monde pareil. Si tu as la disponibilité d'abord de voir ce qui se passe, tu vois que c'est un copain. Tu n'as pas la disponibilité, tu tapes d'abord. Il y en a qui tapent plus vite que leur ombre. Bon, ceux-là, ils ont perdu. On est obligé, même dans les cas où ça va mal, d'être d'accord de prendre un certain recul et de voir les choses avant qu'on puisse les comprendre. Parce que tu ne vas pas t'imaginer que c'est un bon copain. Tu es sûr que c'est un ennemi. Le bon Dieu, lorsqu'il envoie une preuve, si on s'écarte un peu, on peut voir. On ne s'écarte pas, on plonge. Lorsqu'il envoie ce qu'on appelle une siata lishmaya, c'est-à-dire une aide, il intervient dans l'histoire, c'est la même chose. Il faut d'abord que tu t'écartes un petit peu, et puis ensuite, tu peux observer les choses. Kumi, ça veut dire que si tu es capable de t'enlever de là où tu es, alors le khilar. Mais le khilar ne peut pas s'adresser à celui qui n'est pas capable de se lever de là où il est. C'est pour ça qu'il y a marqué d'abord Kumila. D'abord tu vas te lever. Si ça veut dire quelque chose pour toi, c'est bon. Et alors à ce moment-là, le khilar. Malheureusement, il y en a 4/5 qui ne se sont pas levés, ils ne sont pas partis. C'est-à-dire que ça ne dépend pas finalement du bon Dieu, ça ne dépend que de l'homme. Moi, je ne peux que profiter de l'instant. Profiter de l'instant, c'est ça ce qui a marqué Kumila. Qu'est-ce que ça veut dire profiter de l'instant? C'est ça qui est écrit dans la Gemara, dans le traité de Kiddushin. D'abord, dans le Zohar, c'est marqué que tout celui qui voyait le tzitz, vous savez ce que c'est le tzitz? Hein? On appelle ça comment en français? La tiare. Ah bon? Sur le front, le Kohen Gadol avait une plaque en or où il était écrit Kodesh Lachem. Et qu'il portait, c'est un des 8 vêtements du Kohen. Il y a marqué tout celui qui voyait le tzitz. Il était mitkaper. Mitkaper, ça veut dire mot à mot. On ne tenait plus compte de toute la véro, de toutes les bêtises qu'il avait pu faire. Commentateur demande pourquoi? Parce qu'il a vu le tzitz. Non. Il y a marqué dans le Zohar que c'est une zgoula pour la kapara. Ce goula, c'est difficile de traduire en français. Mais ça veut dire quelque chose de propice. Tout celui qui voyait le tzitz, il avait une occasion d'essayer de réfléchir à lui-même. La même chose est marquée, celui qui sentait le hachan de la ktoret, celui qui sentait l'odeur de l'encens. Il y a des moments, il y a des choses dans la vie qui sont données à l'homme pour qu'il fasse un arrêt. S'il profite de cet arrêt, on appelle ça la zgoula, c'est propice. Tu ne profites pas de l'arrêt. Mais on ne les force pas. C'est la même chose. Kumila. Quelquefois, on doit profiter de l'arrêt. Et c'est tellement important de profiter de l'arrêt qu'on peut tout perdre si on ne profite pas. J'ai raconté l'histoire. Il y avait un étudiant dans l'Yeshiva de Vologine dont on pensait qu'il connaissait tout le Talmud par cœur, lui aussi pensait qu'il le connaissait. Un jour, pendant le déjeuner, quelqu'un lui a demandé une référence dans un Tosafot. Il a vu qu'il ne savait pas. Il s'est levé de table, il est dans sa chambre, il a pris ses affaires, il est allé dans un petit patelin reculé, il est resté 5 ans sans bouger, jusqu'à ce qu'il connaisse la Gemara entièrement par cœur, mot pour mot. Quand il est revenu, les élèves sont allés chez leur maître, qui s'appelle Rabbi Chaim de Vologine, et lui ont demandé « Est-ce qu'il avait raison de se lever au milieu du repas sans faire le Birkat Hamazon ?» Ou est-ce qu'il avait tort ?» Rabbi Chaim de Vologine a répondu ceci. Il est évident qu'il avait tort de se lever sans faire le Birkat Hamazon, mais sachez que s'il avait fait le Birkat Hamazon, il ne serait jamais parti de la Yeshiva pour aller étudier, il serait resté comme il était. Il y a des moments qu'on doit saisir. Ah, il y a des dégâts. Ça ne veut pas dire qu'on doit justifier a priori. Mais ça veut dire que il faut savoir saisir ces moments-là. Au point que la Gemara raconte. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est marqué dans le traité de Ktubot. Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait quelqu'un de sa ville qui allait au Beit HaMidrash le même que lui. À ce moment-là, il fallait pour aller jusqu'à Tsipporim. Il fallait marcher 2 semaines. Et c'était le mariage de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, attends jusqu'à la fin des 7 jours. Et je viendrai avec toi, parce que la coutume c'était, on se mariait 7 jours. Et après on partait pour 2 ans à l'Yeshiva. La Gemara a dit, velo shami alei. Il n'a pas écouté, il est parti tout de suite. Sous-entendu, c'est quoi? Maintenant, j'ai envie de partir au Beit HaMidrash. C'est pas facile. On part pour longtemps. On ne reverra pas sa maison. On ne va pas revoir sa femme. On ne va pas revoir ses enfants. Si j'attends l'autre, je ne sais pas si je partirai. Alors, je vais me priver de la compagnie de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui n'était sûrement pas n'importe qui. Et je vais partir tout de suite. Velo Shmiyale. Il n'a pas écouté, il est parti tout de suite. Il y a des instants dans la vie qu'il faut savoir saisir. Parce que le monde ne te donne pas un coup de pied quelque part. Il te permet de saisir l'instant. C'est ce qu'on appelle Siata Lishmaya. On va t'aider, on va te donner un coup de pouce. Mais le coup de pouce, il ne va pas être pour te lever. Le coup de pouce, il va être pour partir. Kumilar, tu te lèves, ou le Khilar. Et à ce moment-là, tu peux partir. Kine Astav Avar. Astav, on a dit, c'est l'hiver. En vérité, ça désigne l'hiver. Simplement parce que ça veut dire le cycle. C'est passé. En hébreu moderne, stav veut dire le printemps. On utilise un nouveau mot qu'on appelle choref pour dire l'hiver. L'automne. On utilise un nouveau mot qui s'appelle choref pour dire l'hiver. Mais dans le Tanakh, stav, ça veut dire l'hiver. A geshem chalaf alachou. Le mot geshem, c'est vrai que ça désigne la pluie. Mais tout le monde a compris qu'est-ce que ça veut dire, Geshem. Gashmiut. Geshem veut dire le matériel. Le temps du matériel pour le peuple juif, qui est le temps de l'Égypte. Pourquoi le temps de l'Égypte s'appelle le temps du matériel? Parce que l'Égypte, qui se dit Mitzrayim en hébreu, ça veut dire les limites. Metzar, c'est la limite, enfermée. Dans quoi est-ce qu'ils étaient enfermés? Ils étaient enfermés dans le désespoir, dans la Touma. Ce que nous appelons la Touma, la pureté, ça n'est pas loin de ce qu'on peut appeler le désespoir. Je veux dire pourquoi. L'idée de pureté n'existe que chez quelqu'un d'optimiste qui pense qu'un avenir existe. Celui qui pense qu'un avenir n'existe pas, il est obligé de se complaire dans l'illusion. L'illusion, nous appelons ça, nous, l'impureté. À partir du moment où je pense qu'un avenir existe, je suis dégagé des mezzarines, de mes propres frontières. J'ai envie de ceci, j'ai besoin de ça, mon instinct me dit ceci. Tout ça, je peux le dépasser. Une seule condition, il faut que j'aie un avenir. Si je n'en ai pas, je n'ai pas de raison de lutter. Celui qui n'a pas de raison de lutter, on va appeler ça le désespéré. C'est ce que nous appelons à tout moi. Ça veut dire vivre dans des frontières. Ne pas savoir faire des choix. Ne pas savoir sortir de soi-même. Gashmiut le Geshem, c'est ça. Geshem, ça veut dire le physique. La Gashmiut. Le terre-à-terre. Ha Geshem Khalaf al-Akhlo. Ça s'est passé maintenant. C'est un temps qui est passé. C'est un temps qui est obligatoire pour l'homme. Un homme est obligé un jour de se sentir enfermé là-dedans. Mais une seule condition, c'est que ça puisse passer. C'est pour ça qu'on l'appelle Stav. Stav, qui est l'anagramme du mauvais set, qui veut dire cycle. Si un homme croit que c'est inéluctable, il est fichu. Si un homme sait que ça peut passer, il est libre. Celui qui pense avoir un avenir, même dans la difficulté, il est libre. C'est pas facile. Mais il a l'espoir. Qui dit espoir, tu as deux tendances, ou l'espoir ou le désespoir. Mais celui qui sait que ça va jamais passer, ou qui pense qu'il n'y a pas d'avenir, c'est celui-ci le désespéré. Donc si on traduit les mots, Hageshem Khalaf al-Akhlo, la Gashmiut, le fait que tu es emprisonné dans tes petits instants, dans ta petitesse, dans le terre-à-terre, Khalaf al-Akhlo, ça y est, il y a une nouvelle période qui va s'ouvrir. Hanitsanim niru ba'aretz. Nitsanim, on traduit ça par le bourgeon, on traduit ça par tout ce qui montre que la nature s'est relevée. Vous savez que l'hiver, imaginons qu'il n'y a que l'hiver, c'est désespérant. Pourquoi? Parce que je ne peux pas agir. La terre n'est pas à ma disposition l'hiver. Je ne peux rien faire. Elle est dure, elle ne produit pas. Elle n'est pas fonctionnelle. Je suis bloqué. Pourquoi est-ce que chacun a besoin d'un temps où il est bloqué? C'est comme ça que le bon Dieu a construit les choses. Parce que si on était toujours libre et si on était toujours bloqué, ça n'irait pas, alors on a fait moitié-moitié. Voilà ce qu'on peut comprendre des choses. Mais on est obligé de voir la fin. En hébreu, il y a un deuxième mot pour désigner le bourgeon, qui s'appelle tzitz. Tzitz, vous avez reconnu le mot tzitzit, qui veut dire la fin du, la fin de l'hiver, la fin du vêtement. Tout au bout, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui commence. Les gens vont dire, ouais, c'est l'espoir qui fait vivre. Mais l'histoire est là pour nous montrer que ça a marché. Ce serait difficile de fêter la fête de Pessah si on n'avait jamais été libéré. Ce serait impossible. On deviendrait fou. Déjà comme ça, c'est pas facile. On dit l'année prochaine, et l'année prochaine, et l'année prochaine. Mais comment est-ce qu'on peut dire l'année prochaine? Parce qu'il y a eu une fois une année. Imaginons qu'il n'y ait pas eu, ce serait impossible. C'est-à-dire que la fête de Pessah, dans l'histoire, ça nous montre la vraie réalité de la fête de Pessah. On ne peut pas demander à quelqu'un d'espérer s'il n'a pas vu que les choses changent. Nous, on était un peuple d'esclaves. On s'en est sorti. Puisqu'on s'en est sorti, alors on peut de nouveau s'en sortir. Imaginons qu'on ne s'était jamais sorti. On ne peut pas vivre que de promesses. Ceux qui ont vécu que de promesses, c'est qui? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est les tzadikim. Ils n'ont pas vu la réalisation de quoi que ce soit. On leur a promis, ils n'ont rien vu. Seulement, à partir des enfants de Yaakov, on n'a plus affaire au fondateur. On a affaire à celui à qui s'adresse maintenant la Torah. Avraham, Israël et Yaakov, la Torah s'adressait pas à eux. Eux ont découvert la Torah tout seuls. Ils n'avaient pas besoin de la révélation de la Torah. Mais le peuple juif a besoin de la révélation de la Torah. À partir de ce moment-là, on a besoin que dans l'histoire, les choses existent vraiment. On ne peut pas vivre que d'espoir. À partir de ce moment-là, et ça c'est incroyable, ça veut dire que, avec une seule fois, on a donné le coup d'envoi pour l'instant, déjà 3310 ans. Avec un coup, on a gagné 3310. Bon, il faut voir que le coup était puissant, puisque il y a les autres télémorphes, mais les liplés, il a fait la mer jouer. Ça veut dire que le ressort, il a fonctionné. Mais on a besoin de ça. Ça, c'est ce qui est marqué ici. Anitzani Nirubaret, ça veut dire quoi? Le début, tu perçois le début. Ça s'arrête. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que la Gemara, le Midrash raconte, les Israël, lorsqu'il arrive Moshe Rabbeinu, il a dit, on va sortir. Velo, Shamu, El Moshe, Mikotse, Ruach, ou Meavodakasha. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Faites bien attention ici, parce que c'est difficile à comprendre dans le texte. La Gemara a dit, Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, Venez Israël, lo shamu elai. Les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Ve'ech yishmeeni paro. Et comment est-ce que Pharaon va m'écouter? La Gemara a dit, c'est echad me'asara kalvachomer shebatora. C'est un des 10 raisonnements, a fortiori, un des 10 kalvachomer qui est marqué dans la Torah. La question, évidemment, c'est faux. Il est marqué Velo Shamo El Moshe Mikotseruar ou Meavodakasha. Il ne pouvait pas écouter, pourquoi? Kotseruar, c'est-à-dire quoi Kotseruar? Souffle coupé, ça y est, pas plus, on ne peut plus. Meavodakasha, la difficulté du travail. Mais Pharaon, lui, ben, il ne travaillait pas. Il n'était pas occupé. Il était libre de penser, lui. Donc le Kalvachomer, il ne marche plus. C'est quoi le raisonnement, a fortiori? Si déjà les Bnei Israël ne m'ont pas écouté, comment veux-tu que Pharaon m'écoute? Mais la Torah elle-même, elle explique pourquoi est-ce que les Bnei Israël ne m'ont pas écouté. Parce qu'ils étaient tellement asservis par le travail qu'ils ne pouvaient pas écouter. Alors que Pharaon, il était asservi par personne. Où est le Kalvachomer? Ça marche plus. Voilà la question que tout le monde demande. On n'a qu'une seule réponse. Ce qui a marqué Velo Shamuel Moshe Mikotseru Arumé Avodakasha, c'est pas une justification. C'est pas que, tu sais, le gars qui est en train de travailler, c'est normal. Non. Dites-moi, il y a un type qui est dans la mine, à moins 300 mètres. Il est à moitié en train de suffoquer. Hein. Il a les poumons pris. Il tire un petit chariot dans le noir. Et il entend l'heure de la pause. Il met combien de temps pour remonter? On va dire un quart du temps qu'il a mis pour descendre, c'est sûr. Est-ce qu'il est à l'heure? On n'a jamais constaté des retards dans une classe lorsque la cloche sonne. Mais on a constaté des retards lorsqu'il faut venir le matin. À partir du moment où on amène une lueur d'espoir à quelqu'un. Le fait de dire on ne peut pas écouter parce qu'on est trop asservi, c'est pas qu'on ne peut pas écouter. Ça, c'est qu'on ne peut pas croire. On n'y croit plus. Mais pourquoi tu n'écoutes pas? Si tu peux y croire ou non, tu verras. Mais là, on sonne la cloche, tu t'arrêtes. Arrête-toi. Moshe Rabbeinu est venu, il a dit voilà, regarde cela. Ils travaillent. Ils sont tellement habitués au travail que même lorsqu'on leur dit de s'arrêter, ils ne s'arrêtent plus. Alors lui qui est habitué à faire travailler les autres, il est évident que quand on lui dit qu'il faut arrêter de faire travailler les autres, il ne va plus s'arrêter. C'est ça le Kalvachomer. Le Kalvachomer, il n'est pas, ils sont épuisés pour le travail, ils ne peuvent pas réagir. Non. Ils sont dans un système duquel ils ne peuvent pas sortir parce que ils ne veulent pas écouter. Celui qui est dans un système. Alors Pharaon, c'est pas lui qui subit le système. Lui, c'est le maître du système. Alors tu penses bien qu'il va jamais en sortir. C'est ça le Kalvachom. Dans ce qui est marqué, Shamuel Moshe Mikot Tsewa ou la Kacha, c'était pas une justification pour dire. C'était pour dire que même de tendre l'oreille, c'était un gros, trop gros effort. Même ça, je peux pas faire. Le type, il est devenu un tel bourricot qu'il ne savait plus travailler. Voilà. Il ne sait plus faire autre chose. C'est l'exemple de la mine, il est faux. Parce que, dans la mine, tout le monde attend la cloche de midi. Mais si dans la mine, personne n'attendait de cloche, et que vous sonnez une cloche, on ne vient pas. C'était ça que mon cher Benoît a dit. Eux, ils n'ont pas écouté Mikot Tsewar ou Meor Velakacha. Comment veux-tu que lui qui profite du système, l'écoute? Pire que ça. Lorsqu'ils sont sortis que ça allait mal dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont dit? Zacharnu et Adaga Asherachalnu de Mitzrayim Chinam. On va bien essayer de traduire. Zacharnu. On se rappelle et Adaga, le poisson, Asherachalnu que nous avons mangé, de Mitzrayim en Égypte, Chinam gratuitement. Alors maintenant. Les Bnei Israël ont servi Pharaon 210 ans. À la fin, ils étaient 600 000 hommes, on va dire 3 millions, entre 3 et 4 millions de personnes. Où c'est Bechinam? Qu'est-ce qui est gratuit dans le fait de manger du poisson? Même l'âne comprend que si on veut qu'il travaille, il faut le nourrir. C'est pas Chinam, il travaille. Comment les Bnei Israël ont pu dire une chose? Chinam. Comprenez? Tu as reçu gratuitement des femmes? Parce que celui qui travaille, il s'est tellement habitué à travailler que même lorsqu'on lui donne son entretien, il remercie. Parce que il s'imagine qu'on aurait pu encore réduire. On aurait pu leur dire, paye le poisson. La preuve, c'est ce qui leur est arrivé. Dès que mon cher Abel est venu, eux, ils recevaient les briques. Ils les entassaient. Après, on leur dit, payez les briques. Il n'y a pas de limite à l'esclavage. À partir du moment où on t'entretient, même pas dignement, mais disons assez pour que tu puisses servir dans de bonnes conditions, tu trouves ça déjà chinam, c'est gratuit. Parce qu'il n'y a pas de limite à ça. Les Israéliens sont venus, ils ont dit, voilà. On était chez Pharaon, on bossait. Mais il nous entretenait. Là, on vient dans le désert. Rien à manger, rien à boire, rien à ceci, rien à ça. Les Égyptiens, la mer ici, le voisin. On ne les même pas entretenus. C'est ce qu'ils ont dit. On veut bien participer au système. Mais l'âne, il faut lui donner de quoi avancer. Pharaon, il donnait de quoi avancer. Il aurait pu donner moins. Et il le donnait chinam. Nous, on veut pas que le bon Dieu lui donne quelque chose. Ça, ce sont venus demander le ministre. Donc maintenant, on comprend comment Moshe Rabbeinu a dit, eux, ils ne peuvent pas écouter. Comment est-ce que Pharaon va écouter? C'est juste parce qu'ils ne peuvent pas écouter. On n'est pas libre pour écouter. Ça, c'est ce qui est marqué ici. Anit Sanin Nirubaret, celui qui ne voit pas la fin, à partir du moment où tu lui dis qu'il y a une fin, il n'écoute pas. Il est pris dans l'engrenage. Et à Zamirigia, le chant. Tout le monde sait que les oiseaux chantent. C'est le printemps. Très bien. Zamir en hébreu. Ça veut dire Zemer. Mais Zamir, ça veut aussi dire le fait de couper. Zomer, c'est élaguer un arbre. Couper une branche, on dit en hébreu Zomer. Couper un arbre. Couper quelque chose qui pousse, c'est Zomer. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu leur a dit Et à Zamir Gia, c'est aussi le moment de la cassure. Pourquoi le moment de la cassure? Justement parce que quelqu'un peut s'être tellement habitué à l'hiver, et lorsqu'il ne sait pas ou il ne croit plus qu'il y a des saisons et que ça va venir, eh bien le printemps c'est une cassure. Attention, ça veut dire que même la liberté, elle est au prix qu'un homme doit payer. Être d'accord de casser avec le peu qu'il a. C'est ça ce qui a marqué dans le prophète Jérémie. Zachar tilach, chesed nourayich, l'erter achara et bamidbar. Dieu dit au peuple juif, Zachar tilach, je te retiens. Chesed, la bonté nourayir de ta jeunesse, l'erter achara et bamidbar, tu es venu derrière moi dans le désert. Tout le monde demande comment. C'est mieux d'aller avec le bon Dieu dans le désert que de recevoir les coups de fouet des policiers du pharaon. Non, c'est pas mieux. Parce qu'il faut casser quelque chose. La preuve, c'est qu'on a quand même reçu du poisson gratuit. Le système, il est tellement fort que c'est une des seules façons d'expliquer le manque de rébellion du peuple juif pendant les années de la dernière guerre. C'est que les non-juifs viennent et vous disent maintenant ça a un peu passé, ils se gèlent un petit peu maintenant parce que maintenant on nous accuse de toucher les dividendes, donc c'est une autre accusation. Mais avant on nous accusait d'avoir été des victimes consentantes presque. Le mouton. Cinq nazis pour garder 1000 juifs. Seulement quand vous demandez à celui qui était à l'intérieur du camp, et qui va vous dire que lorsqu'il a envisagé d'aller fuir dans la forêt, c'était pour être pourchassé comme à la pâte par les Polonais, les Ukrainiens, les Lituaniens, il était nettement mieux dans le camp. Ça veut dire que quoi qu'on fasse d'un homme, à partir du moment où il n'est pas éternellement à la merci de l'autre, il y a une certaine règle. Il pense que s'il y a quelque chose de bechinam, il ne voudra jamais sortir. Ça veut dire que, à partir d'un certain moment, on ne sait plus se mesurer. Quoi, moi je vais aller dans la forêt, je vais mettre à la merci des Polonais, je vais me battre. Je vais me faire voir de toute façon. Il n'y a pas d'avenir. Il faut une cassure. Cette cassure, elle n'existait pas. Elle était improbable, impossible. La preuve, c'est qu'ils avaient été livrés par ces gens-là. Alors pourquoi aller fuir vers ces gens-là? Ça, les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils ont l'impression que lorsque tu es entre les barbelés, dehors c'est la liberté. Mais si le dehors c'est celui qui t'a mis derrière les barbelés, ou qui t'a dénoncé à celui qui t'a mis derrière les barbelés, qu'est-ce que tu peux espérer? C'est exactement la même situation que lorsque Moshe Rabbeinu est venu. Velo Shamuel Moshe, Nikotseroua Rumeo Dakasha. Ce qu'on devient. Il y a la loi du plus fort. On ne peut pas ne pas y obéir. Même ce qu'on a reçu, eh bien, il nous a quand même entretenu, il ne nous a pas tué tout de suite. Les autres, ils vont nous tuer tout de suite. Que le peuple juif soit parti du, on va dire, même de la limite qu'il avait. On peut comprendre qu'un juif dans un camp de concentration, il ne veuille même pas partir de cette limite de petit chinam qu'il a eu. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine règle. Tu travailles, tu vis. Tu ne fais pas ceci, tu as de la chance, l'autre il n'est pas sous le soir rentrant, il n'en tuera pas comme ça au hasard. Il y a une certaine règle qui fait qu'on peut exister. Pour me mettre à la merci de l'autre, dont je ne vois pas du tout la solution. Le bon Dieu venait leur dire, voilà, maintenant vous allez dans le désert. Et dit, dis-moi, là j'ai du poisson, c'est vrai que je travaille, mais ça pourrait être pire, ça peut toujours être pire, et c'est sûr que le désert c'est pire. Alors pourquoi est-ce que je m'en irais dans le désert? C'est ça ce qui est marqué ici. Et à Zamir Igia. C'est vrai que c'est le printemps, et puis on danse et on chante, mais il faut savoir casser, parce que l'avenir tu ne le connais pas, tu n'as que les promesses, et les promesses on ne peut pas vivre. Ve kolator nishma be'artzeno. Colato, c'est la tourterelle. La tourterelle, c'est l'annonciatrice. Nishma be'artzeinu, notre pays. Ça veut dire quoi? ça veut dire que vous êtes annoncé quelque part. Dieu, c'est vrai qu'il a demandé de partir dans le désert, c'est vrai. Il n'y avait pas de chemin de fer, il n'y avait pas de ravitaillement prévu à chaque étape. Mais le fin, c'était quand même de les faire entrer dans la terre d'Israël. Ça veut dire que quoi? C'est vrai que c'est qu'une promesse. Mais le désert, c'est quand même pas la fin. Et à Zamirigia, c'est vrai qu'il faut casser. Mais quand la torne est chez l'embarras, c'est non. Si tu veux, tu peux le croire. Athéna, Chanta, Pagea, Vagfanim, Smada, Matnouria. Athéna, Chanta, Pagea, on va aller vite. Athéna, c'est la figue. Chanta, Pagea. Pagea, Pag, c'est la petite figue lorsqu'elle apparaît. Chanata, c'est l'éclosion du fruit. Vagfanim, Smada, Matnouria. Là, il y a diverses interprétations dans le Midrash. Il y en a qui disent que Athéna Chanta Pagea, c'est Moshe Rabbeinu, que Agfanim Smadar Natnouveach, c'est les Levim qui ont accompagné, alors que ne travaillaient pas, qui étaient ceux qui enseignaient la Torah au peuple juif en Mitzrayim. Ce que veut dire le verset, Athéna Chanta Pagea, ça veut dire les choses sont mises en place. On voit comment ça recommence. Tu peux y croire, tu peux pas y croire. Mais, regarde, si on a mis les choses en place, c'est qu'il y a un avenir. Alors là, il faut savoir une seule chose. C'est pour ça que le verset, donc, il termine. Kumi le chira yati, yafati ou le chira. Alors maintenant, tu peux t'en aller. Il faut savoir une chose. C'est un grand paradoxe. Vous savez que la Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av, on ne dit pas le Tachanoun. On ne dit pas le Tachanoun comme un jour de fête. Vous regardez dans le Shulchan Aruch, pourquoi? Parce que Tisha B'Av, Ikre, Moed, il s'appelle fête. Essayez de trouver la fête qu'il y a dans Tisha B'Av. Deux destructions du temple, que des malheurs pendant cette période. Où est la fête? Le Ramban Nachman donne une allusion. Bien qu'ils disent que Usod Misodot la Torah, c'est un des secrets qu'il ne veut pas dévoiler. Il y a un livre qui s'appelle Aktava Kabbalah qui essaye d'expliquer ce Ramban. Il dit ceci. Pourquoi est-ce que la Torah nous donne des mitzvot qu'on soit en Eretz Israël ou qu'on soit en Chutz Laaretz? Il y a des mitzvot qui sont intrinsèques à Eretz Israël. Alors que toutes les mitzvot sont intrinsèques à Eretz Israël. Ah, il y a des mitzvot qui ne sont pas intrinsèques à Eretz Israël, alors qu'aucune mitzvot c'est intrinsèque à Eretz Israël. Pourquoi un double système? Il y a des mitzvot qu'on peut faire quand on est à Israël, et les autres mitzvot qui ne dépendent pas d'Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est que ce double système? Il dit, c'est très simple. Si Akadosh Baruch Hu nous avait donné que des mitzvot à faire en Eretz Israël, nous n'aurions pas d'existence en tant que peuple juif une fois qu'on aurait été exilé. Le fait que le prophète nous dise de garder le Tzom HaChamishi, c'est-à-dire Tisha B'Av, ce fait même-là veut dire qu'on reviendra. Parce que s'il n'y a pas d'espoir, pourquoi tu me donnes des mitzvot? Si tu me donnes des mitzvot, c'est que j'existe encore. Si j'existe encore, je reviendrai un jour. Tisha B'Av s'appelle Moed, parce qu'on m'a demandé de commémorer la destruction. Si on me demande de commémorer la destruction, c'est-à-dire qu'un jour je reviendrai. Parce que si je suis perdu, on n'a pas besoin de me demander de commémorer. La fin du tunnel, elle est dans l'obligation de commémorer le jour de la destruction. En cela, Tisha B'Av s'appelle Moed et on dit pas Tachanoun. Parce que Tisha B'Av, c'est la preuve que le peuple juif viendra un jour. Sinon, il n'y aurait pas eu Tisha B'Av. Donc le fait même qu'il existe un jour de Tisha B'Av, c'est ça l'espoir du peuple juif. C'est pour ça que ce jour-là, comme le jour de fête, on ne dit pas le Tachanoun. Ici, il y a exactement la même idée. On vient, on me dit, voilà, Kumilar, Yafati, Urchim.